Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast de Moodstep où nous parlons de savoir-être au travail. Aujourd'hui, un épisode assez long. Alors, il est important pour moi qu'on reste en moyenne un peu moins de 40 minutes, mais parfois, il faut aussi savoir prendre le temps. Aujourd'hui, nous allons explorer l'approche narrative avec Christophe Bellu en duplex de Bordeaux. Je suis Johanna Kellen, opératrice de turbines à bonheur. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle toujours les turbines à bonheur, car vraiment, vraiment, le sujet qui m'intéresse, ce sont les talents. Ce que j'aime particulièrement en ce moment, c'est travailler donc avec les entreprises. En général, j'ai des groupes d'en moyenne 150 personnes pendant 2 heures. Et ce que j'aime, c'est ressortir avec une cartographie des talents de chaque personne et du groupe. Pour en savoir plus, il suffit d'aller sur le site turbineabonheur.com, tout au singulier. Et nous retrouvons tout de suite Christophe pour le podcast. Bonjour Christophe.
Bonjour Johanna.
Bienvenue sur le podcast de Moodstep. Aujourd'hui, nous allons parler d'approche narrative. Mais avant que nous commencions, est-ce que tu pourrais te présenter ?
Avec plaisir. Alors, je m'appelle Christophe Bellu, donc je suis coach et facilitateur depuis maintenant un peu plus de 10 ans. Voilà, installé à Bordeaux. Je travaille et je vis au pays, comme je dis, parce que Bordeaux, ou plutôt le sud-ouest, c'est vraiment mon pays. J'y suis né et j'y suis resté. Voilà, donc ça, c'est un vrai bonheur de travailler ici pour plein de raisons que beaucoup de gens découvrent aujourd'hui d'ailleurs et qui fait que nous assistons à une arrivée en masse de gens d'un peu partout qui viennent vivre et travailler à Bordeaux. C'est assez sympa.
Bah surtout depuis que le TGV...
Oui, ça a accéléré avec le TGV, mais
c'était
2 heures maintenant de Paris.
2 heures, c'est incroyable.
Ouais, ça c'est incroyable. Et pour nous aussi, enfin, pour moi aussi qui vais travailler un peu à Paris régulièrement, c'est très, très intéressant. Mais, et puis c'est vrai que c'est très confort. Voilà, ça permet de vivre et de travailler dans une ville qui est une région super agréable et de se sentir proche en même temps de tout ce qui se passe d'intéressant dans ce pays. Donc,
Voilà. Tu dis que tu es coach facilitateur depuis 10 ans. Qu'est-ce que tu faisais avant ?
Moi, je viens d'une formation école de commerce. J'ai travaillé dans les entreprises en général, mais très précisément et très longtemps dans une entreprise de presse qui s'appelle le Sud-Ouest, qui est le groupe Sud-Ouest ici à Bordeaux, voilà, dans lequel j'ai évolué dans différentes fonctions et missions, la plus longue étant celle de ma dernière partie de vie dans cette entreprise, où je m'occupais de communication interne, de promotion, de développement et de d'événementiel, de partenariat. Voilà, j'avais une mission un peu large avec une équipe, une jolie équipe à manager, et puis des projets surtout super intéressants à mener. Voilà, et puis je suis arrivé il y a 12 ans un peu au bout d'un cycle où je ne me retrouvais plus tellement dans le métier que j'exerçais et plus tellement dans cette entreprise, ou du moins dans la façon dont l'entreprise abordait cette période qui était une période de transformation de la presse. Hein. C'était le moment où Internet commençait à prendre beaucoup de place un peu partout. Donc voilà, donc j'étais pas très en accord avec les stratégies que me proposait mon entreprise. Et puis je pense que surtout j'avais fait le tour du sujet. J'avais bien bossé, je m'étais bien amusé. Et donc je trouvais qu'il était temps que je passe à autre chose, et surtout que j'avais entre-temps effectivement bien identifié le autre chose qui était le métier que je fais aujourd'hui et que je pratique depuis un peu plus de 10 ans. Donc.
Comment tu l'as identifié ?
Alors en fait, il se trouve que j'étais effectivement manager d'équipe, mais pas simplement. J'étais manager d'équipe, manager de projet beaucoup, parce que j'étais au cœur dans cette entreprise de tous les projets de développement, de tous les projets de partenariat, de tous les grands événements sportifs, culturels. Voilà, j'étais vraiment à l'interface de tout ça. Donc, j'ai eu besoin un moment de progresser. Je me sentais un peu limité sur ce que j'essayais de comprendre être le management et dans ces différentes composantes et dans ces différentes orientations pour moi en fait. Et donc je suis allé me former à Paris, à la Cegos, c'est une formation un peu traditionnelle de manager, je ne sais plus comment ça s'appelait. Et il se trouve que le formateur était un externe à la Cegos et était coach. Il est toujours coach d'ailleurs à Paris, c'est un excellent professionnel, un excellent praticien, et qui s'appelle Étienne Roy. Je lui rends hommage en même temps. Et donc voilà, c'est lui qui m'a fait découvrir ce métier. Enfin, j'ai découvert l'approche, la façon de travailler à partir d'une posture de coach dans le cadre de cette formation. Ça m'a interpellé et donc j'ai eu envie d'en savoir plus. J'ai commencé à le questionner, du coup, on a sympathisé. Et on a passé pas mal de temps à échanger, discuter, y compris lorsque je suis rentré, enfin lorsque je rentrais à Bordeaux. Et quelques mois après, je l'ai sollicité pour qu'il me coache. Je voulais vivre cette expérience-là, sortir du processus de formation un peu traditionnel pour me confronter à quelque chose qui était plus personnel, plus impliquant pour moi. Voilà, ça a été une chouette expérience qui m'a aidé, qui m'a fait progresser, je pense, du moins j'en ai eu l'impression. En tout cas, qui m'a facilité voilà, les derniers moments de ma vie professionnelle dans ce groupe Sud-Ouest. Voilà. C'est comme ça que j'ai découvert ce métier-là. Et après, à partir de là, je n'ai pas eu vraiment de cesse que de me renseigner, de commencer à lire un petit peu tous azimuts. Et de rencontrer des personnes, notamment des coachs, des professionnels, pour me faire une meilleure idée de ce qu'était ce métier qui commençait à me plaire particulièrement.
Maintenant, abordons l'approche narrative. Comment tu l'as découverte et qu'est-ce que c'est en fait? D'où ça vient?
Alors, j'ai découvert très tôt en me formant. Je me suis formé au coaching à Paris chez Vincent Lénard dans une école de coaching qui était une des écoles un peu référentes à l'époque. Dans cette période-là, j'ai retrouvé un vieux camarade de classe, copain d'enfance, ami d'enfance, qui s'appelle Pierre Blanc-Sanoun, qui est un coach assez connu de la, on va dire pratiquement de la première génération de coachs. On a le même âge, hein, mais lui, il avait démarré beaucoup plus tôt que moi. Enfin, il est même un peu plus jeune que moi. Il serait content que je dise ça. Et donc, on a décidé de bosser ensemble. Voilà, on a trouvé que c'était assez évident, parce que c'était un petit clin d'œil du destin ou de la vie plutôt qui nous remettait sur la même route. On a décidé de bosser ensemble. Il venait de se réinstaller à Bordeaux. Et à ce moment-là, il a été, alors je ne sais plus exactement par quel biais, enfin on avait commencé à lui parler de l'approche narrative qui venait juste de faire son apparition en France, puisqu'il y avait eu un séminaire à Paris de Michael White, qui est l'un des deux fondateurs de l'approche, australien d'origine, qui était venu commencer à enseigner l'approche narrative dans une école à Paris qui s'appelle Media Coaching. Et donc on est allé assez vite se confronter à ça parce qu'on nous avait dit beaucoup de bien de cette approche-là. On a commencé à lire le peu de littérature qui existait sur le sujet. Et voilà, et on a démarré comme ça. Et ça a été une très 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 grande surprise et révélation parce que on va y revenir. Mais moi, ça m'a fait regarder le monde qui m'entoure d'une façon nouvelle et complètement différente. Et pas juste le regarder, l'écouter, j'ai envie de dire plutôt, ce serait plus juste, l'écouter d'une façon tout à fait nouvelle. Ça m'a permis de me mettre à distance de la façon dont je vivais, j'encaissais ou je subissais un certain nombre d'histoires et de récits qui imprègnent notre culture, nos façons de vivre, nos modes de vie. Et ça m'a vraiment permis de prendre une très grande, à la fois d'abord distance et ensuite une assez grande liberté. Et ça m'a amené à renégocier un certain nombre d'idées bien arrêtées qui étaient les miennes, comme le sont pour beaucoup de personnes, je pense, tant qu'on n'a pas voilà, trouvé un moyen de les mettre à distance et d'en renégocier le sens. Voilà. Alors on va y revenir, hein, quand je vais parler un petit peu plus de ce que c'est l'approche. Mais en tout cas, ça a été vraiment un bouleversement pour moi dans ma vie, quoi. Donc, pas simplement professionnel, quoi. C'est ça qui était intéressant. C'est que c'était un changement de posture, y compris dans mes prémices de vie, de coach, de praticien, de mon nouveau métier. Ça a vraiment changé quelque chose de fondamental, quoi.
Donc en quoi ça consiste?
Alors, ça consiste à travailler à partir des récits. En fait, les fondements de l'approche narrative nous amène à considérer les histoires comme les récits comme façonnant l'identité des personnes, des individus, de moi, de toi, de tous ceux que nous côtoyons, et des groupes, des équipes, des groupes culturels. Voilà. En fait, les individus et les équipes sont traversés par des récits. Alors, il y a des récits très anciens, des récits mythologiques, des récits fondateurs, voilà, qui sont au cœur des cultures, hein, des civilisations, qui ont façonné les civilisations. Et puis, il y a les récits très proches de nous, hein, nos récits personnels, les récits qui nous viennent de nos familles, qui nous viennent de notre environnement, de notre entourage. Et on est traversé par tout ça en permanence. Et certains de ces récits prennent une place plus importante que d'autres et deviennent des récits dominants dans nos existences. Ils sont des récits qu'on écoute davantage, auxquels on fait davantage référence, auxquels on se réfère davantage. Et du coup, parfois, souvent même, ça nous conditionne un petit peu, ça nous empêche de renégocier un certain nombre de ces éléments-là. On les considère comme acquis. On considère que ces récits sont notre réalité. Or, ce ne sont que des récits. Ce n'est qu'une interprétation de la réalité. Voilà. Donc, on est toujours dans cette idée que nos histoires, les histoires qui nous accompagnent sont intangibles, qu'elles sont là et qu'elles sont le socle sur lequel on fonde notre vie, notre identité. Or tout ça est renégociable à loisir et en permanence. Et donc c'est ça qui est le fondement, c'est de se dire que tout est histoire. Et que donc, à ce titre-là, tout peut être réécrit, rediscuté, renégocié, et que c'est ça qui est vraiment important.
Tu parles de récits dominants. Est-ce qu'on sait pourquoi certains récits sont plus ancrés que d'autres ?
Alors pourquoi ? Oui, pourquoi ? Alors on ne sait pas forcément pourquoi. On sait qu'ils se sont installés. Si tu veux, il y a un très bon exemple qui est fortement d'actualité. C'est ce qui se passe aujourd'hui autour du genre, de l'homme, de la femme, et de tous les événements qui sont en train d'envahir un peu l'espace public autour de la place de la femme dans la communauté humaine, hein, et le rapport homme-femme dans nos communautés humaines. Et donc on voit bien qu'il y a un certain nombre de récits qui sont venus positionner le genre masculin d'une façon dominante, on va dire, dans cette histoire commune, pour sans doute plein de raisons. J'ai écouté il y a peu de temps, la semaine dernière, quand Françoise Héritier est décédée, on a beaucoup reparlé d'elle et de ce qu'elle avait, de ses engagements fort pour essayer de dénoncer quelque part effectivement la position dominante masculine, d'essayer d'en retrouver l'origine, donc à travers là aussi des récits, hein, qui sont, mais on les retrouve y compris dans, et je l'entendais encore ce matin en venant à la radio, dans l'idée par exemple que dans l'orthographe, enfin la grammaire plutôt française, le genre masculin l'emporte sur le genre féminin. Voilà, et ça c'est une décision, c'est quelque chose qu'on a décidé à un moment donné et on a écrit ça, on l'a formulé, c'est devenu un récit, le genre masculin l'emporte sur le genre féminin, mais ce n'est qu'un récit, ce n'est que parce qu'à un moment donné ça a été décidé par certains, écrit, institué comme une sorte de norme, voilà. Or ça n'a aucun sens. Si on veut bien le reconsidérer, ça n'a aucun sens. Il n'y a rien qui autorise à ce que le genre masculin soit dominant par rapport au genre féminin. Donc voilà, donc ça c'est pour prendre... alors ça, bien sûr, après il y a des recoupements au fil du développement de l'humanité, on retrouve plein d'éléments qui sont les éléments de prise de pouvoir du masculin sur le féminin. Moi j'ai toujours eu une théorie dessus qui était qu'effectivement à partir du moment où l'homme a s'est rendu compte que la femme, c'est la femme qui donne la vie, qui est au cœur de la vie, puisqu'elle la porte et elle la donne. Il y a quelque chose que l'homme a essayé de s'attribuer pour compenser cette espèce de frustration énorme qui était la sienne. Ça, c'est mon point de vue. Et donc, je pense qu'il y a plein de choses qui ont été écrites par les hommes Ils se sont arrogés un certain niveau de pouvoir pour écrire une histoire, y compris des histoires religieuses. Hein, on le sait, c'est pas vrai que dans la, enfin, c'est vrai dans la religion catholique, c'est vrai aussi dans les récits religieux de l'islam, par exemple, où, pour ne pas les nommer, on a deux récits religieux qui ont cherché au fil du temps à essayer de positionner le masculin comme supérieur ou dominant par rapport au féminin. Donc voilà, tout ça, ce sont des récits. Donc ça, là, on est plus proche des récits fondateurs et mythologiques, j'ai envie de dire. Après, il y a des récits tout près de nous, hein, on est chacun porteur de nos récits identitaires familiaux, et on s'y réfère plutôt fortement ou plutôt pas trop, tant mieux quand c'est pas trop influent, mais ces récits ont forcément des conséquences sur la façon dont on décide de mener nos vies, quoi, hein. Alors c'est les récits de nos parents sur nous, c'est les récits que nous-mêmes nous finissons par adopter et raconter sur nous-mêmes. Ce sont les récits de notre environnement amical, social. Voilà, tout ça concourt à écrire une histoire pour nous qui n'est pas la seule histoire possible.
Donc en fait, on a à l'intérieur de nous des récits comme des mythes personnels. Et en fait, ils sont comme des images et on peut les revisiter, c'est ça?
C'est ça, oui.
Donc comment on fait? Comment l'approche narrative nous aide à revisiter ces moments de notre vie?
Alors, d'une part, elle essaie de nous aider à prendre conscience de cette dimension-là, de cette idée. Alors en fait, qu'est-ce que sont les récits? Les récits, les histoires qu'on raconte, ce sont toujours des histoires, des expériences que nous avons vécues ou dont nous avons été témoins, d'accord? Ce qu'on raconte, en principe, c'est quelque chose qu'on nous a raconté ou qu'on a vécu nous-mêmes. Et donc, dans ces récits, il y a un certain nombre d'éléments qui sont des éléments qui s'impriment, on va dire, plus fortement. Je ne sais pas, par exemple, si on prenait l'exemple de quelqu'un à qui on demande plusieurs fois successivement de se présenter, par exemple, de façon un peu détaillée, on s'aperçoit à des personnes différentes, on va s'apercevoir qu'il y a un certain nombre d'éléments dans son récit de présentation qui sont les mêmes. Alors, il y a des choses qui vont changer un petit peu selon l'interlocuteur et le contexte dans lequel il va se raconter, il va se présenter. Mais globalement, on va avoir une espèce de corpus comme ça, des éléments centraux dans le récit qu'on va retrouver. Et ces histoires et cette façon de se raconter, c'est ce qu'on appelle les histoires dominantes. C'est celles qui dominent notre paysage identitaire. D'accord ? Et donc, à partir de là, on voit se détacher un certain nombre d'éléments. Et dans ces récits, alors je vais être schématique un peu, hein, pour essayer de faciliter la compréhension de tout ça, mais enfin, en même temps, c'est comme ça que ça s'explique aussi. C'est dans ces récits dominants, il y a des récits qui nous aident, c'est-à-dire des récits qui disent « je suis quelqu'un de généreux », par exemple, voilà, ou « je suis quelqu'un d'enthousiaste », voilà, bon, voilà, on peut se décrire comme ça. Et puis, il y a des récits qui sont des récits dominants, qui nous enferment et qui nous limitent. Il y a quand même une tendance, alors ça c'est dans la culture, on va dire, française, judéo-chrétienne, il y a une tendance à écouter beaucoup les histoires qui nous limitent et qui nous empêcheraient ou qui nous empêchent de nous déployer et qui nous empêchent de faire appel à nos ressources les plus formidables parce qu'elles nous enferment dans une idée un peu réduite de qui on est. Le récit dominant, en fait, il ne laisse pas beaucoup de place à tout ce qu'on appelle, nous, en approche narrative, les récits alternatifs, les histoires préférées. Voilà, j'aime bien ce terme-là. On a des tas d'histoires préférées, mais on s'en sert assez peu, finalement. Elles sont assez peu stimulées, assez peu entendues, assez peu racontées, surtout. Et donc, petit à petit, quand on se retrouve, alors c'est vrai qu'en coaching, on se retrouve souvent avec des gens qui viennent nous voir parce qu'ils ont ils traversent une période de difficultés, de problèmes, etc. On voit ces récits dominants, enfermants, de problèmes, ces histoires de problèmes occuper vraiment une place, pour ne pas dire tout l'espace, de la relation qu'on établit avec les personnes, quoi. Et que ces personnes-là ont dans leur espace de vie professionnel ou personnel, quoi. Donc voilà, donc c'est cette idée de distinguer ce que sont ces récits qui deviennent dominants parce qu'on les raconte beaucoup, parce qu'on nous les a racontés beaucoup, parce qu'on nous les raconte toujours beaucoup, hein. La façon dont on qualifie l'autre, souvent, peut être, notamment dans le monde de l'entreprise, très vite assez limitant et enfermant.
Tu parles des histoires alternative, est-ce que parce que donc on a les histoires dominantes, les histoires alternatives, c'est une autre version de l'histoire dominante ou ce sont des histoires à côté qui sont écrasées, on va dire, dans notre mémoire par les histoires dominantes?
C'est exactement ça, Johanna, c'est exactement ça. Ce sont des histoires à côté qu'on ne raconte peu ou pas et qui sont souvent écrasées, effacées, cachées par l'histoire dominante. Voilà, et donc le travail de l'approche narrative, notamment, des travaux au centre de l'approche narrative, c'est comment on aide les gens à redevenir auteurs de leur propre vie, de leur propre histoire, en faisant réémerger les histoires alternatives, ces histoires préférées, et en les remettant en action dans le paysage de la personne.
Je me demandais aussi, parce que j'ai la phrase on se raconte des histoires qui me vient dans la tête. Est-ce qu'on réexplore, par exemple, on va prendre les histoires dominantes, on les réexplore, on les regarde sous un autre jour, on les modifie, parce qu'en fin de compte, j'ai l'impression. Je suis en train d'écouter là une conférence de Boris Cyrulnik qui s'appelle Le récit de soi, c'est un
Ah
hasard.
oui, c'est chouette, toi.
J'ai pas fini. Il est passionnant, cet homme-là.
Ah oui, impressionnant.
Et en fait, ma question, oui, c'est est-ce que donc on se construit des histoires qui ne sont pas une réalité, qui sont qu'une interprétation de la réalité? Est-ce que l'approche narrative va réexplorer ces histoires dominantes? Est-ce qu'on les réinterprète?
Oui, alors c'est pour ça que j'utilise souvent le terme renégocier. En fait, on en renégocie le sens. Effectivement, on se raconte des histoires, c'est vrai, je crois qu'on peut dire ça, et on nous raconte des histoires. Hein, c'est une espèce de combinaison de ce que nous entendons de nos petites voix à nous, et puis des voix externes, des voix extérieures. Hein. Donc, l'idée, quand j'ai dit redevenir auteur, c'est effectivement prendre conscience que on est peut-être enfermé dans une histoire de problème, par exemple. C'est un des gros travails de une des façons de travailler en approche narrative, c'est d'identifier le problème. Il y a un élément central dans l'approche narrative qui dit le problème n'est pas la personne, la personne n'est pas le problème. Le problème est le problème. La personne est la personne. Voilà. Et donc, et le problème est une histoire. Voilà. C'est-à-dire que pour qu'un problème existe, il faut qu'on soit capable de le raconter. Tant qu'on ne sait pas le raconter, il n'y a pas vraiment de problème, quoi. Ou alors on peut se sentir pas très bien, on ne sait pas pourquoi, mais il va falloir qu'on lui donne du sens à ce sentiment de pas très bien. Et donc, voilà, tout d'un coup, il y a une histoire qui naît à propos de ça. Et donc, l'idée, c'est de bien distinguer ces deux éléments et de dire, on a d'un côté un problème, de l'autre côté une personne. Et on ne mélange pas les deux. Et donc, on essaye de faire raconter et prendre conscience de la personne avec laquelle on travaille ou du groupe, hein, de l'équipe, de qu'est-ce que c'est que ce problème, quoi, et où est-ce qu'il est, quoi. Alors j'ai un exemple comme ça qui me revient parce que c'est un des plus sur ce thème-là. Alors on appelle ça l'externalisation du problème, quoi. En fait, c'est sortir le problème de la personne, lui faire prendre conscience que c'est pas elle le problème. Il y a quelque chose qui est venu dans son paysage à elle, perturber quelque chose, changer le regard sur son environnement, sa vie, ses relations, etc. Et il y a une fois une personne que j'accompagnais et avec qui je pataugeais vraiment sur ce sujet-là. J'arrivais pas, je voyais bien qu'elle était empêtrée dans un truc. Et donc, à un moment, je lui ai dit, bah, écoutez, est-ce que vous voudriez bien essayer de me dessiner quelque chose qui ressemblerait au problème. Et donc elle me dit oui, d'accord, je vais essayer. Alors elle va au tableau, elle commence à dessiner, je l'aide un peu en la faisant formuler, et on se retrouve avec un espèce de bonhomme un peu difforme, assez rond, avec des grosses pattes, avec je sais pas, c'était quelque chose d'assez laid. Voilà, elle me disait voilà, il ressemble un peu à ça quand j'y pense au problème. Et je dis, mais vous ne pouvez pas affiner un peu? Elle me dit, si, il aurait un peu la forme vous savez, du bonhomme Michelin. Et comme j'avais bien senti que c'était assez moche dans sa vie, je lui dis, est-ce qu'on pourrait l'appeler le bonhomme Mochelin? Est-ce que ça vous irait comme façon de le nommer, etc. Et alors j'ai vu ses yeux s'illuminer, elle dit, ah ouais, c'est tout à fait ça, le bonhomme Mochelin. Et donc à partir du moment où on a mis le problème, on a réussi à visualiser, à lui donner une forme, à le sortir de quelque chose qui n'était pas très bien définissable. Voilà, on a changé de registre dans le travail qu'on a fait et on a essayé de voir les effets que le bonhomme Mochelin avait dans la vie de la personne. cette personne-là. Et donc ça, c'était intéressant parce que du coup, il y a un moment où on aide la personne à se décoller du problème, de se détacher, de le regarder. Et tout d'un coup, on est deux. On était deux, on faisait alliance pour essayer de travailler sur l'influence que le problème avait dans la vie de la personne.
Donc tu aides la personne à regarder son problème. Là, tu parles du dessin.
Oui, par exemple.
Approche narrative, je pensais que c'était beaucoup dans le parler. Donc tu utilises, je suppose, le récit.
Oui, beaucoup.
Parce que là, quand tu accompagnes cette personne, par exemple, tu utilises autant des techniques de coaching couplées à l'approche narrative ou c'est vraiment une démarche,
Alors,
je sais pas comment dire, mais une
spécifique.
démarche en elle-même à suivre sans autres influences.
Oh non, mais on peut pas faire ça, on peut pas être sans autres influences. Moi, j'ai mis l'approche narrative au cœur de ma façon de travailler, mais ça ne veut pas dire que j'utilise rien d'autre. Par contre, le processus d'externalisation dont je te parlais à l'instant, il est spécifique à l'approche narrative. Si on le retrouve vraiment comme un des éléments
D'accord.
un
Alors,
peu de
en quoi
base,
il consiste ça,
il
cette
consiste
externalisation?
à essayer d'aider la personne à formuler et à raconter le problème d'une façon qui le détache d'elle-même. D'elle-même, de son
Mais comment
identité.
on fait ça?
Mais comme ça, comme je viens de te raconter, alors on peut le faire, là, le dessin m'a aidé, parce que l'idée, c'est d'essayer de dire à la personne, d'accord, on essaie de décrire comment le problème agit sur la vie, c'est-à-dire quels sont les effets visibles du problème sur la vie de la personne.
Donc la personne raconte ça.
Elle raconte ça, oui, bien sûr. On lui pose des
Elle parle
questions, mais
des
qu'est-ce
effets.
qu'il
Ok.
fait, comment il s'y prend, à quel moment il agit. Alors, on essaie d'être assez précis, de revenir vraiment au cœur de l'expérience de la personne, pour que ça soit le plus précis possible. Comment il agit, à quel moment, est-ce qu'il y a des moments où le problème n'a pas d'influence ou n'agit pas sur vous. Ah oui, tiens, il y a des exceptions, il n'est pas tout le temps là, il n'est pas tout le temps présent avec vous, il y a des moments où il n'est pas là, il y a des moments où il est plus fortement présent. D'accord, voilà.
Est-ce que ce questionnement, il est spécifique à l'approche
Oui,
narrative?
alors après, on trouve dans d'autres approches du coaching des choses qui peuvent être assez proches, hein, qui n'ont pas forcément emprunté à l'approche narrative, hein, mais qui se sont développées sur des courants. Par exemple, là, je parlais de l'externalisation du problème. Tout à l'heure, j'ai parlé des histoires préférées. Il y a une autre façon de travailler qui est d'essayer d'amener la personne par les récits à se reconnecter à ses histoires préférées, à ce qui sont ses ressources, ses forces. Les façons dont elle a pu déployer ça dans sa vie, les moments où elle a passé des épreuves ou des choses compliquées ou difficiles, ce qu'on lui reconnaît comme élément de force, c'est-à-dire que comment on la reconnaît à travers ce qu'on appelle souvent les qualités, la façon dont elle est appréciée par les autres, par exemple. Et il y a une autre approche en coaching qui s'appelle l'appreciative inquiry, qui est une démarche qui cherche à faire travailler les gens essentiellement sur ce qu'on appelle la démarche appréciative, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que les gens sont appréciés en tant que tels, c'est-à-dire qu'ils s'intéressent que au côté positif, pertinent, voilà, qui porte et qui transporte les gens, qui les aide dans leur vie de tous les jours, quoi. Donc, travailler uniquement, par exemple, enfin, se centrer sur les histoires préférées, c'est-à-dire aider la personne à faire sortir, à raconter ses histoires préférées, revisiter les moments de sa vie où elle a vraiment résolu des tas de choses dans sa vie, où elle a été particulièrement enthousiaste, heureuse, etc., de vivre. Ça fait partie aussi des démarches que l'approche narrative aide et permet. Mais du coup, il y a des façons de le faire qui sont axées sur la façon de poser des questions et de faire raconter les histoires. Mais il y a d'autres approches en coaching qui tendent vers un travail qui n'est pas très éloigné de ça, en tout cas.
Quand j'essaye de visualiser un peu à quoi ressemble une séance où tu utiliserais l'approche narrative, je me dis, bon, un psychologue, bien que, ou un coach, voilà, va poser des questions pour faire parler quelqu'un. Quelle est la spécificité? C'est juste une question de posture?
Pour faire parler les gens?
Non, en quoi l'approche narrative est particulière par rapport à un questionnement
Ouais, je
habituel
pense que c'est, je
de
pense que
coaching.
je pense que c'est une question de posture. Je pense que c'est une question de posture. C'est ce qu'on appelle une posture qui est décentrée par rapport à la personne, à son problème, etc., et influente. C'est-à-dire qu'on pose des questions qui cherche à faire bouger la personne du centre qu'elle occupe, quoi, et nous-mêmes à bouger, hein, pour l'entraîner un petit peu à se décentrer par rapport à sa pratique, à ses pratiques habituelles, ses pratiques narratives habituelles, et influentes, parce que la façon dont on pose des questions, dont on est insistant à certains endroits, dont on va reformuler, par exemple, il y a un gros travail en approche narrative qui est que on note, alors chacun, on peut enregistrer aussi si les clients sont d'accord, mais souvent, moi, je travaille plutôt à partir de notes que je saisis, c'est-à-dire les mots clés, les mots importantes, les parties de l'histoire qui me semblent particulièrement intéressantes et qui m'aident à mieux comprendre le contexte de la personne et ce qu'elle est en train d'essayer de faire et de résoudre, par exemple, si c'était un problème à résoudre. Et donc, on va poser des questions qui vont chercher à influencer la personne dans l'élaboration des réponses qui la reconnectent avec ses histoires préférées, quoi. Donc, en ça, effectivement, il y a quelque chose de spécifique. Et pour prendre un exemple, par exemple, sur la posture, il se trouve qu'on est quelques praticiens narratifs à intervenir ici à Bordeaux comme enseignants dans le master de coaching qui est dispensé à l'IAE, au pôle de gestion à Bordeaux. Enfin, l'IAE a créé un certain nombre de masters RH et notamment un master de coaching. Et donc, on est quelques enseignants. Parmi les enseignants, on est quelques-uns à être praticiens narratifs de longue date. On est trois, essentiellement, quatre même. Et on a eu un retour des élèves récemment qui nous ont dit, il y a quelque chose de commun dans votre façon d'être, dans votre enseignement, dans la façon dont vous nous parlez de coaching, dans la façon dont vous nous aidez à vous nous aidez à s'initier à la pratique. Il dit on voit la différence, qu'on voit quelque chose de différent, qui n'est pas la même chose que ce que les autres coachs proposent. Ça ne veut pas dire que c'est mieux, hein. Attention, je ne cherche à rien qualifier. En tout cas, puisque tu me poses la question sur la posture, je pense que ça nous amène à avoir une posture qui est un peu différente d'autres pratiques. Voilà. Mais
D'accord.
après, j'aurais peut-être un peu de mal à la définir parce que ça va devenir une histoire que je raconte moi pour donner du sens à ça. Mais voilà, c'est intéressant d'avoir eu ce retour de l'extérieur qui dit, tiens, il y a quelque chose dans votre façon d'être, dans votre façon de nous parler, de nous raconter, de nous proposer, qui est un peu différente de celle qu'on constate chez les autres enseignants. Eh bien, on construit un récit commun en groupe à partir de l'idée que on travaille sur, par exemple, nos meilleures expériences. Alors, je sais qu'on va sûrement parler un peu de management parce que c'est une des thématiques que j'ai vu souvent apparaître dans tes podcasts. Mais en fait, c'est une des thématiques importantes pour laquelle on est sollicité en organisation, en entreprise. C'est le thème du management, du changement de culture managériale, etc. Là aussi, dans les groupes, il y a beaucoup d'histoires souvent dominantes de difficultés ou de problèmes qui ont envahi souvent l'espace et qui sont pas très faciles à traverser. Et donc, on essaie effectivement de faire prendre conscience et contact avec des personnes avec là aussi leurs histoires préférées. Ils ont tous vécu des belles expériences en management, tous vécu de belles expériences de coopération dans une équipe, et pas forcément d'ailleurs dans leur équipe, enfin l'équipe avec laquelle on intervient, ça peut être à d'autres moments de leur vie. En tout cas, ils ont des expériences, et le fait de partager ces expériences-là, de voir ce qu'il y a de commun dans ces expériences-là, leur permet d'élaborer un récit collectif de ce serait quoi une bonne façon pour nous de manager là maintenant, à l'endroit où on est. Et quand on fait travailler des équipes sur ces thèmes-là, on s'aperçoit qu'ils sont capables, enfin que ce qu'ils nous proposent en retour de leur réflexion en petits groupes deux par deux, après quatre par quatre ou en plus grand groupe, il y a tout ce qui, enfin ça suffirait pour écrire un bon manuel de management, quoi. Donc, les gens savent ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut, c'est qu'ils prennent conscience que collectivement, ils le savent et qu'ils ont une connaissance collective et une intelligence collective qui leur permet de se connecter à ça. Et après, qu'ils élaborent. Ils élaborent une façon, un plan d'action qui change les postures. Ça, c'est le plus gros du travail. On démarre par la prise de recul et de conscience, et puis on essaye après de les aider à mettre en place des actions qui soient des actions qui les aident à intégrer ça, à mettre au cœur de leur pratique des choses qui sont non pas nouvelles, mais dont ils se sont un peu, dont ils s'étaient un peu détachés ou séparés, quoi.
On s'est rencontrés il y a un an dans ton bureau à Bordeaux.
Oui.
Et c'est qu'un souvenir de conversation, mais j'avais l'impression qu'on avait parlé des archétypes et j'avais associé l'approche narrative à peut-être des personnages intérieurs.
Alors
Ou
les
bien c'était une
archétypes.
conversation, parce qu'on a parlé de plusieurs choses,
Oui, on
donc
a parlé de pas mal de
où ça ne
choses.
fait pas du tout partie de l'approche narrative.
Alors les archétypes, non, ça ne fait
D'accord.
pas partie. Moi, dans ma pratique, des fois, ça m'aide. De travailler ou de commencer à travailler, notamment en coaching individuel, à partir d'un outil typologique, peu importe lequel, mais qui, lui, est basé sur des archétypes. L'idée, c'est de faire prendre conscience à la personne de sa structure, de la façon dont elle a organisé, dont ses dimensions psychologiques, c'est de ça dont il s'agit, sont un peu structurées, organisées. Et du coup, il y a un profil, par exemple, dans ces outils-là. Il y a des profils, il y en a un dont la personne est plus proche que des autres. Ça, c'est intéressant pour moi. C'est vraiment un bon point de départ et un prétexte pour que, justement, à partir de cette clarification-là, on embraye sur les histoires qui sont, elles, les histoires spécifiques, personnelles, reliées à la vie de la personne, quoi. C'est un outil qui permet de. On dégrossit un petit peu, mais l'approche narrative est tout sauf basée sur des archétypes. L'approche narrative, elle prend l'individu dans tout ce qu'il a de personnel, d'authentique, de spécifique, de particulier. Elle reconnaît chez l'individu le fait qu'il a une existence qui lui est complètement propre, qui est influencée par toutes les expériences qu'il a vécues dans sa vie, y compris les expériences dont il se souvient à peine, et que de temps en temps, quand on fait les recherches sur les histoires préférées notamment, on arrive à faire réémerger, quoi, à les remettre en bonne place dans la vie de la personne. Donc c'est tout sauf des archétypes. C'est la singularité de la personne et c'est l'idée que la réalité d'une personne, elle est multi-histoire et qu'un individu, de toute façon, il est multi-histoire. Voilà. Il n'a pas à se limiter à une version, à une histoire ou une histoire dominante en particulier. Il est multi-histoire.
Ah voilà, on a fini le temps qui nous était imparti.
Déjà,
Eh oui, ça va vite.
comme
Et
le temps
encore, si
passe.
tu savais, on a dépassé.
Ah mince, alors, je suis désolé.
Je te propose de passer au questionnaire,
D'accord.
qui est commun à toutes les interviews. Avec la première question, est-ce que tu as eu un échec dans ta vie, quelque chose qui pourrait être vu comme un échec qui t'a beaucoup appris et fait avancer?
Un échec dans ma vie
Et
où
plus
j'en ai
c'est
eu déjà.
concret, et plus je suis contente.
Un échec sportif, tiens, parce que j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie, et qui était. Alors qui était la suite, qui est un échec particulièrement cuisant parce qu'il était la suite d'une expérience extrêmement réussie et positive où j'avais été amené à construire et à constituer une équipe en volley-ball. Je jouais au volley-ball à l'époque et j'avais changé de club et on m'avait demandé de construire une équipe de jeunes. Et on m'en avait confié la responsabilité en me disant vous allez exercer dans le championnat de Gironde, etc. Donc j'ai construit une équipe à partir de. Comme ça, en récupérant des jeunes qui étaient dans le club, en allant chercher des copains, des machins, enfin, c'est vraiment une équipe de briques et de brocs. Et on s'est beaucoup entraîné, on a constitué un groupe, on sortait ensemble, on a vécu toute une année absolument formidable. On a traversé le championnat de Gironde, on a été complètement euphorique. Et donc, nous voilà arrivés en finale du championnat de Gironde, contre toute attente, hein, franchement. Et là, on a oublié qu'on était une équipe, quoi. Le temps d'une journée, le temps d'un match, on a tous oublié qu'on était une équipe, c'est-à-dire on se voyait déjà gagner, tellement on était dans l'euphorie, et on s'est comporté comme 6, je veux dire 6, on était plus nombreux que ça, enfin on est sur le terrain, on était 6, à chaque fois, et comme six individus qui essayaient, parce qu'on a été mis en difficulté, on a jamais réussi à retrouver, à reconstituer ce qui avait fait le fondement de notre équipe. Et ça m'a marqué. Depuis, pour moi, et dans toutes les occasions que j'ai eues dans le sport, mais dans plein d'autres domaines, et notamment dans le domaine de l'entreprise, dans les différentes expériences d'équipe que j'ai passées, c'est quelque chose qui est resté. Qui est resté, parce qu'on a pris une grosse tôle, hein, quand même, je le précise, ce jour-là.
Mais tu as compris ce qui s'était passé?
Ben oui, je pense qu'on a fait acte d'autosuffisance et surtout d'individualité, c'est-à-dire qu'on s'est cru. On s'est retrouvé un peu en difficulté dès le début du match, parce qu'on était tombé sur une bonne équipe en face. Et au lieu de continuer à jouer notre partition collective, on a joué des partitions individuelles. Et ça marchait pas. Au volleyball, c'est un des sports collectifs par excellence.
Deuxième question, est-ce qu'il y a une technique ou un outil qui t'a particulièrement fait avancer, personnellement, professionnellement, en dehors de l'approche narrative?
Je parlais tout à l'heure d'un outil typologique. Ouais. Dans les outils structurants, il s'appelle le Golden. C'est un outil qui, dans mon métier actuel, est un outil que j'ai continué à utiliser alors qu'il est assez, effectivement, comme je l'expliquais tout à l'heure, assez antinomique, quoi. C'est différent de ce que je mets au cœur de ma pratique, mais en même temps, ça me permet, parce que moi je suis quelqu'un d'assez intuitif et donc j'aime bien travailler avec ce que je ressens, ce qui se passe dans l'instant, etc. Et je dois avouer que cet outil qui lui est très structuraliste, quoi, m'aide beaucoup. Et du coup, ça me fait toujours penser au fait que même si on peut se faire confiance ou faire confiance à son intuition, etc., on a besoin de bons outils pour travailler, quoi. Je me maudis souvent quand je fais du bricolage parce que je ne suis pas très bon bricoleur et en plus souvent je n'ai pas les bons outils, quoi. Donc alors un pas bon bricoleur avec les pas bons outils, c'est fait souvent des catastrophes.
Et ça consiste en quoi, Golden?
Le Golden, c'est un outil typologique, hein, j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire ça permet à partir d'un questionnaire très précis, hein, il y a 140 questions, ça permet de dresser un profil qui est un profil donc forcément un peu type. Et donc du coup de poser comme ça à plat un certain nombre d'éléments. Alors il y a des sujets très précis qui sont la relation au monde, la relation aux autres, la façon dont on perçoit les situations, la façon dont on prend les décisions, la façon dont on s'organise, dont on structure sa vie et sa façon de travailler, par exemple. Donc voilà, ce sont des éléments très, très précis, très tangibles, même s'ils sont dans la dimension psychologique, bien sûr. Et donc, c'est un outil qui, moi, m'a beaucoup aidé à aider les gens, puisque c'est quand même mon métier, c'est aider les autres et accompagner les autres dans les sujets qui les préoccupent et qui sont importants pour eux.
Troisième question. Quelle est selon toi la qualité primordiale à développer pour être un bon manager?
J'ai envie de dire, c'est de rester conscient de son ignorance. Voilà. Je dirais ça. Voilà, rester conscient de son ignorance. On ne sait rien. Du moins, on ne sait jamais suffisamment pour s'imposer à qui que ce soit. Et voilà. Et donc, voilà, rester conscient de son ignorance. Je suis conscient que je ne sais rien. Et en même temps, c'est mettre à la disposition du collectif ce que je sais, au même titre que ce que les autres savent, et c'est essayer de faire quelque chose de collectivement qui se tienne, sans laisser dans ce mouvement-là s'imposer des idées arrêtées, préconçues. Et voilà, laisser de la place à l'ignorance, c'est quelque chose qui me semble assez, assez utile et fondamental.
Une notion d'humilité.
Oui, d'humilité et de conscience de sa vulnérabilité. Voilà, l'être humain est un être vulnérable, absolument vulnérable, ce qui lui a permis d'ailleurs de devenir cet être dominant et pas toujours pour le meilleur, loin de là, sur cette planète, c'est d'avoir sans doute eu conscience de sa vulnérabilité et d'avoir mis le collectif comme élément premier de sa survie, quoi. Donc on est vulnérable, il ne faut jamais oublier ça, quoi. Vulnérable et donc rester humble. Hein. L'humilité, hein, ça vient de la même racine que humus, que humble, que l'humanité. Voilà. Donc c'est important.
Est-ce qu'il y a un livre que tu conseillerais à la lecture?
Un livre, plein de livres. Un livre au service de quoi?
Ben, alors,
Ou un livre pour
a
qui ou...
priori, pour devenir un meilleur manager.
Alors, si c'est un livre pour devenir un meilleur manager, surtout pas un livre de management, parce que je pense que être manager, c'est être soi-même, conscient d'où on est, dans quel environnement on est. Et donc, si je donnerais, alors s'il y a un petit livre que j'adore, qui s'appelle La petite philosophie de l'entreprise, c'est un philosophe qui a écrit ça, qui s'appelle Emmanuel Jafflin. Et il nous permet de regarder à nouveau l'entreprise comme ce qu'elle a de plus fondamental, quoi. Et de jamais oublier que l'entreprise, c'est un groupe d'individus, de personnes qui essayent de faire un truc ensemble, quoi. Voilà. Et que ce n'est pas des tableaux de bord, que ce n'est pas du pouvoir des uns sur les autres, que ce n'est pas un chiffre d'affaires, que ce n'est pas un outil industriel uniquement, quoi. Ce sont juste des éléments qui sont au service de ce qu'est le projet collectif dans lequel ces personnes-là sont engagées, quoi. Donc, petite philosophie d'entreprise. En plus, il a un talent fou, Emmanuel Jalfin, parce qu'il arrive à parler dans son bouquin et il présente le manager comme un gentleman. Il dit, si le manager était un gentleman. Alors, j'adore cette idée-là. Je l'ai trouvé. Voilà. Donc, c'est un tout
Je
petit livre.
connais Emmanuel et j'aime son style. En fait, quand tu parles avec lui, il est très. C'est un philosophe, donc il a une culture incroyable. Il parle très bien et en même temps, il met des mots d'aujourd'hui et même un peu racaille des fois
Oui, c'est
dans son
vrai,
vocabulaire.
ouais. Il y a un vrai
Je
vocabulaire de
conseille beaucoup
maintenant.
d'écouter Emmanuel Jafflin.
Et tu l'as interviewé?
Alors, je ne l'ai pas interviewé, je l'ai fait intervenir à Pilab.
Ah, d'accord.
Et puis, puis on s'est revus à l'APM et puis à différentes occasions. Et voilà, c'est un philosophe atypique. Oh, ils le
Ouais.
sont tous, ils ont tous des personnalités atypiques,
Oui, bien sûr, il y en a.
mais j'apprécie particulièrement Emmanuel
Oui. Bah écoute, tant mieux, tu vois, c'est bien tombé. On ne s'était pas concerté. En même temps, moi, j'aurais beaucoup de plaisir à le rencontrer. J'espère que ça sera possible un jour.
Est-ce qu'il y a une citation je sais pas, qui pourrait définir ton action ou...
Alors, des citations, ouais, j'en ai plein dont je me sers souvent. Je peux en donner deux. J'ai le droit.
Allez,
Deux, soyons
j'en ai
fous.
déjà tweeté une que j'ai trouvée sur le site internet, ton site internet,
Laquelle?
qui était sur l'intelligence collective. Chacun sait quelque chose, nul ne sait tout.
Ah ouais.
L'échange est la clé de tout progrès
Pierre
par
Lévy.
Pierre Lévy.
Ouais.
Et alors, oh là là, ça a été liké et retweeté énorme hein, pour mon compte. Hein, 4 fois liké, 2 fois retweeté. C'est un succès fou!
Bon, c'est formidable. Écoute, ouais, celle-là, ouais, forcément, c'est quelque chose qui, si je l'ai mis sur mon site, c'est qu'elle avait de l'importance pour moi. Alors, il y en a une autre, ouais, que j'aime beaucoup, qui va rejoindre ce qu'on évoquait tout à l'heure à propos des qualités des managers, c'est ne jamais laisser notre savoir prendre le dessus sur ce qui demeure plus important, notre ignorance. Et cette citation, elle est de Henri David Thoreau, qui était un philosophe du 19e. Qui a écrit un bouquin formidable qui s'appelle Désobéissance civile. Et c'est quelqu'un qui a toujours, je pense que c'est un pionnier de l'approche narrative. Il faut que je le lise encore plus, mais en fait, il a toujours remis en question les principes et les acquis qu'une société cherchait à imposer à ses citoyens. Non pas, il a inspiré profondément Gandhi, Martin Luther King, voilà, tous ces
C'est
apôtres
lui qui a
de...
écrit Walden.
Oui, c'est ça, mais c'est lui qui a
Il
écrit.
vivait dans la forêt.
C'est ça, il a vécu, enfin pas toute sa vie, mais une bonne partie de sa vie, ouais, dans une forêt. Et voilà, c'est un philosophe naturaliste que j'aime bien et qui a écrit de belles choses. Ouais. Donc je me sens... voilà, je me sens un peu héritier, pas de sa pensée, parce que je suis loin d'avoir lu beaucoup de choses de lui, mais en tout cas, ce qu'il a écrit, ce à quoi j'ai eu accès, me parle beaucoup.
Merci beaucoup.
Mais merci à toi, beaucoup.
Je mettrai en lien ton site internet? Est-ce que, y a un moyen privilégié pour te contacter? LinkedIn, je sais pas, des réseaux sociaux en particulier?
LinkedIn, puis si tu mets mon lien internet, il y a le téléphone, il y a tout ce qu'il faut,
Ok.
je n'ai rien à cacher, il y a mon adresse mail, mon téléphone et mon LinkedIn. Non, le LinkedIn, je ne sais pas s'il est sur le site, je crois pas, non. Mais bon, il n'est pas difficile à trouver.
Pour finir cette interview,
Oui.
j'ai l'habitude d'utiliser ma baguette magique. Je la prends là tout de
Ah,
suite. Elle
génial,
est magnifique.
j'adore ça.
Voilà, je peux réaliser un tes souhaits. De quoi t'as envie?
De quoi j'ai envie là maintenant?
Ouais. Ça peut être énorme, ça peut être petit, c'est ce que tu veux.
Moi, j'ai envie de continuer à travailler longtemps en travaillant de moins en moins. Voilà. C'est ma pensée du moment. Je voudrais continuer à travailler longtemps, mais travailler de moins en moins. Voilà. Ce qui n'est pas un paradoxe, si on
Ah, mais moi,
réfléchit
c'est
bien.
ce que je fais.
C'est ce que tu fais, bien.
Ah, moi, j'applique toute ma vie à vivre comme ça.
Ah, mais c'est génial, écoute. C'est super. D'ailleurs, tu as choisi. Enfin, tu as choisi, tu n'as pas choisi. Si tu as choisi, tu as vivre pour lui ou tu es de là-bas.
Oui, j'ai choisi. Je suis de là. Ma famille est de là,
D'accord, donc
mais j'ai choisi.
tu as choisi aussi
Alors,
l'endroit où
j'ai
tu.
mon récit, hein, mais.
Voilà, donc ça c'est pour la. C'est pour. Ah ben non, c'est bon. Ça serait formidable.
Mais je crois qu'on va tous aller vers là.
Mais tant mieux, j'espère. Je nous le souhaite en tout cas.
Ouais.
Je nous le souhaite.
Merci beaucoup, je te souhaite une très belle journée et j'espère que tout le monde va apprécier ce podcast.
Ben écoute, j'espère aussi, merci à toi. C'est toujours intéressant de revisiter comme ça ses propres idées. Ton questionnement était vraiment intéressant. Et donc voilà, j'ai passé un super moment. Ma journée sera belle parce que voilà, une heure pour démarrer comme ça, plus le soleil magnifique qui brille à l'extérieur. Ça va être
Comme si en
génial.
Bretagne.
Ça va être un mercredi génial.
Mais oui, ça va être un mercredi génial. Si vous écoutez ce podcast tout frais, tout chaud, sorti de iTunes, on est mercredi. Si c'est un autre jour, ce sera un autre jour génial. C'est tout ce que je vous souhaite. On se retrouve la semaine prochaine. Nous allons parler de, attention, j'ai beaucoup de mal à le prononcer, réuniologie. Bon, l'art de la réunion. Pas la réunion de Lille. Les réunions, quoi. Comment avoir des réunions efficaces, où on se sent bien et on est content d'avoir fait une bonne réunion. Et en attendant qu'on se retrouve mercredi prochain, bah, je vous souhaite une excellente semaine. À mercredi!